RMC, face aux grandes gueules.
Elle est éditorialiste politique, c'est un visage familier pour les téléspectateurs sur France Télévisions. Elle s'appelle Nathalie Saint-Cricq, elle est aussi auteure de romans La Petite Mère aux éditions de l'Observatoire. Bonjour Nathalie Saint-Cricq.
Bonjour à tous, Nathalie, merci de m'accueillir.
Avec plaisir. Nathalie, il y a quelques minutes, on discutait des dates choisies pour la prochaine présidentielle. Elles sont tombées, premier tour 18 avril, deuxième tour 2 mai. Alors Bruno Retailleau est en colère parce que le 2 mai pour lui...
C'est le lendemain du premier.
Voilà, il estime que ce choix n'est pas neutre, puisque la veille, il y aura les cortèges syndicaux qui seront bien sûr très politisés et qui seront défavorables aux candidats de la droite ou de l'extrême droite.
Oui. Moi, je crois que c'est toujours des mauvaises dates. Soit c'est pendant les vacances, soit c'est le lendemain d'un week-end, soit c'est le lendemain d'un week-end comme c'est un dimanche. Je pense qu'il faut se calmer un peu. On risque d'avoir une année intense. Le 1er mai, certes, ça peut l'être pour de multiples raisons, mais il y a les syndicats, puis il y a l'extrême droite de l'autre côté. Bon, ben voilà. Si on pouvait sortir des débats sur les dates des élections ou la clim, ça serait
c'est pas
mal
un mauvais coup.
Non,
c'est pas un mauvais coup d'Emmanuel Macron.
Il faut arrêter de voir sa main derrière, et puis la canicule non plus, vous voyez. C'est pas lui qui a voulu. Il y avait, je sais pas si vous vous souvenez pas, parce que vous êtes probablement trop jeune, hein. Mais en 81, il y avait eu un titre, ça devait être l'événement du génie, qui avait titré Vague de froid, Mitterrand responsable. Donc, l'idée qu'il y ait toujours quelqu'un qui tire les ficelles me semble.
Mais pourquoi vous aviez une espèce de lassitude, là, de dire, on peut sortir des débats sur l'élection présidentielle?
Non,
pourquoi
ça,
là, cette espèce de.
C'est pas de la.
De fatigue, là, de.
C'est pas du mépris, ni de la fatigue. C'est que ça serait bien de prendre ça plus globalement. C'est-à-dire, la clim, c'est passionnant le débat, mais après, on se demande où sont fabriqués les climatiseurs. On se rend compte que plus de 50%, c'est dans la zone Asie-Amérique. Et vous voyez, on globalise et on ne fait pas simplement un tout petit truc. Donc là, effectivement, le débat sur les dates, je pense qu'il y a tellement de problèmes en France qu'on n'a pas de temps à perdre pour débattre des vrais sujets.
Mais vous en avez couvert des campagnes présidentielles. Celle-là a-t-elle vraiment démarré ou est-ce qu'on est suspendu à la décision de justice la semaine prochaine? Mardi prochain, on saura si Marine Le Pen peut être finalement la candidate du Rassemblement National.
Alors, on est suspendu au 7 juillet. Moi, je serai l'arme au pied à partir de 6h du matin. Enfin, ça, tout le monde s'en fout, mais ça sera le cas. Non, je pense qu'il faut attendre un peu octobre. Je pense, mais peut-être je me trompe, qu'il va y avoir une sorte de reset en octobre grâce au sondage. C'est-à-dire qu'en gros, on va voir si ça bouge, si Édouard Philippe reste en tête, si Attal décolle, si Glucksmann bouge, si Hollande rentre, et si finalement tout le monde n'est pas à 10-12, auquel cas, il va y avoir à mon avis une espèce de coup de chaud, là pour le coup, mais intellectuel, en se disant on peut pas aller dans le mur comme ça, que des gens qui sont autour de 10, et peut-être, ça c'est ma grande thèse, tout le monde se fout de moi, mon fils l'y compris.
Alors allez-y.
La personne qui arrive après, une personne qui pourrait mettre tout le monde d'accord et dire écoutez, on vous a testé pendant 3 mois, là on a attendu... pas terrible ce que vous faites, il faut quelqu'un qui...
Donc c'est en janvier, fin d'année,
Non mais cette personne, pour qu'on comprenne bien, cette personne, donc ça sera pas du côté de la France Insoumise, parce que là il y a un candidat Mélenchon, pas du Rassemblement National, mais ça serait ce qu'on appelle le bloc central, une personne qui mettrait tout le monde d'accord, donc du centre-gauche au centre-droit,
pour faire du Emmanuel Macron en fait.
Ce serait qui?
Non mais attendez,
par définition, on ne sait pas qui.
Il y a des gens, par définition, mais il y a des gens qui... On peut parler de Sébastien Lecornu, je ne pense pas qu'il passe son temps à ne penser qu'à Matignon. Il peut y avoir, même si dit le contraire pour l'instant, un Castex. Bon, voilà, un Castex, un Lecornu, je vous ai dit déjà. Ouais. Je ne sais pas, il y a peut-être quelqu'un qui fera un peu plus consensus.
Mais vous ne croyez pas au vote utile, qui ne sera pas peut-être un vote tellement emballant d'adhésion, mais il y a beaucoup de gens, enfin, je ne sais pas si vous les rencontrez, moi, je rencontre beaucoup de gens qui disent, moi, je ne veux pas les extrêmes.
Pas.
Je ne veux pas ni Mélenchon, ni Bardella. Donc, ces gens-là, à un moment donné, peut-être qu'ils choisiront, ils regarderont les sondages, ils diront, bon, le mieux placé, c'est peut-être Édouard Philippe ou un autre. Ouais, il n'est pas emballant, mais quand même, c'est...
Non, mais je crois autres. Totalement à ça, au vote utile. Je vous dis simplement que
dès le premier tour, hein.
Mais dès le premier tour, il y a tout retour en ça va de sens. Mais il faut qu'il y ait quand même quelqu'un qui ramasse suffisamment et qui recueille suffisamment d'adhésion pour que le vote soit vraiment utile.
Oui.
Parce que si on fait tous du vote utile, genre on se dit, s'il y a 11, 12, 13, par exemple, dans les sondages, et que chacun de nous se dit le vote utile, c'est celui-là, on risque d'avoir un seuil pour le deuxième tour qui est vachement bas, et ça peut ne pas être la personne pour laquelle on a voté utile.
Il peut y avoir des surprises.
Je pense qu'il faudrait que ça se creuse un peu l'écart.
Et Mélenchon, Bardella au second tour, vous y croyez?
J'essaie de pas y croire.
Ouais, et France Télévisions va faire campagne pour Mélenchon contre le Rassemblement National.
Comme d'habitude, vous savez. Hein,
oui.
Ça, c'est de l'humour, je mets une astérisque parce que, en général, quand je dis quelque chose, ça peut me revenir en boomerang. Donc, je fais un petit peu attention.
Non, mais ma question était un peu provoque suite à la commission, sur l'audiovisuel public. On a tapé sur l'audiovisuel public qualifié d'étant à l'étendard de la gauche, etc. Donc, c'est pour ça que je me permets de la provoque.
La commission était assez orientée. Moi, j'y suis passé, donc je dis pas ça simplement de l'extérieur. parce que, en gros, ce qui les intéressait, c'était plus les anecdotes people avec les salaires des animateurs ou des choses comme ça. Sur le vrai fond, ça aurait été intéressant de faire une commission. Je pense qu'on est passé un peu à côté et que surtout, on n'a pas écouté les réponses des dirigeants. Après, vous savez, la privatisation du service public, j'ai bien reposé des questions derrière, aussi bien du côté de M. Ciotti que du côté de M. Bardella ou Mme Le Pen. C'est pas leur premier but. Donc je pense que tout ça, ça va se
créer. Oui, mais ce que Alain faisait référence à cette accusation récurrente, on aurait un service public de l'audiovisuel qui aurait un biais, qui serait marqué à gauche, voilà.
Il y a des choses
qui ne reflèteraient pas l'opinion publique des Français dans sa diversité.
On tend vers quelque chose de correct et d'objectif, et il y a des choses qui ne le sont pas, bien évidemment.
Donc il y a un correctif à faire.
Mais il y a un correctif à faire dans plusieurs domaines, bien sûr. Mais pas, c'est pas en gros comme on le dit.
Mais comment vous l'expliquez que on est plus à gauche dans le service public?
Je ne sais pas si c'est qu'on est plus à gauche. Je sais qu'il y a quelquefois des démarches de dénonciation qui sont plus militantes. Mais j'ai pas eu, enfin en tout cas moi pour ce qui me concerne, on m'a jamais relu un papier en 10 ou 15 ans. Et je pense pas que je sois qualifiée ni de gauche ni de droite parce que je me fais engueuler des deux côtés.
C'est donc, bon signe.
C'est bon signe, ou alors c'est signe qu'on a fait long feu, je ne sais pas. Mais en tout cas, honnêtement, pour voir les gens, j'ai dirigé le service politique, j'ai jamais été obligé de rectifier avec quelqu'un. Aussi, une fois quelqu'un m'avait mis dans un sujet, le président des riches, comme synonyme d'Emmanuel Macron, je lui dis, c'était un peu engagé, ce genre de choses. On ne va pas l'appeler le président des riches, puisque c'est une appellation qui est contrôlée par LFI. Mais honnêtement, j'ai pas l'impression, quand je regarde la télé, d'être devant une chaîne engagée ou qui fait. Il est hors de question qu'on fasse campagne pour qui que ce soit.
Il n'y aura pas de campagne. Mais, alors, du coup, CNews, c'est marqué à droite. Et est-ce qu'il faut fermer CNews?
Non, mais pourquoi fermer? Pourquoi fermer des chaînes?
Certains le demandent.
Certains le demandent. Moi, je pense simplement qu'il faut contrôler un peu. Mais je parle de la politique étrangère, là. Parce que, pour le coup, les opinions, on a le droit d'en avoir. Et une chaîne qui s'intitule Tant qu'on ne trompe pas les clients, ça va? C'est-à-dire qu'on dit CNews, on sait ce qu'on regarde. À partir de là, c'est vrai que certains commentaires, notamment sur la guerre en Ukraine, et en considérant en gros que c'est les Ukrainiens les agresseurs, ça que je trouve que c'est problématique. Mais tant qu'il s'agit d'opinion...
C'est-à-dire que CNews serait sous influence étrangère?
Enfin, écoutez, regardez les éditos et écoutez les papiers ou les interventions de Xenia Fedorovna.
Question, nos GG, Abel Bouilly, parce qu'il y a le livre aussi, il faut en parler, Barbara Lefebvre et Fatia, qui se lance? Barbara?
Sur le livre?
Vas-y, ou Nathalie Saint-Cric, ou vas-y.
Non, moi je pense que ce serait bien qu'on parle du livre, parce que votre livre, justement, il aborde des sujets qui sont des sujets tout à fait actuels, étant donné le thème même du livre, hein, qui
la
est...
La petite mère aux éditions
L'Observatoire. La petite mère, donc on va pas raconter l'histoire.
C'est un roman, hein.
C'est un roman, bien sûr. Alors, déjà, la première question, c'est, est-ce que c'est inspiré d'un fait réel?
Tout à fait.
Voilà.
Alors, il faut peut-être expliquer, il faut que tu pitches le livre.
Oui, rapidement. C'est un grand ténor du barreau à la retraite, qui a fait sa carrière, ou en tout cas a fait sa grande notoriété sur l'acquittement d'une mère qui s'est accusé plus ou moins d'avoir enterré son enfant, mais
en réalité,
puisque c'est son conjoint qui était un espèce d'une brute épaisse qui a enterré l'enfant, et elle le recontacte de nombreuses années plus tard, et en fait, c'est toute l'ambiguïté de...
Elle lui dit, il faut clore l'affaire,
voilà.
Elle lui demande clore quoi,
au bout
de 20 ans, et il revisite l'enquête du passé, au regard de ce qu'elle lui va lui dire ou ne pas lui dire. Et c'est tout le nœud de relation entre tous ces gens qui sont chacun un peu sous emprise de quelqu'un, elle de lui, lui de sa mère. Donc il y a toujours
appelle un thriller psychologique.
C'est ce que j'ai tenté de faire, exactement.
Oui, et c'est plutôt réussi. Alors justement parce que vous avez exploré cette ambiguïté de la frontière entre la victime et l'héroïne, c'est-à-dire justement cette femme, cette Nadège, qui est elle-même aux prises d'une enfance très difficile, etc., et qui se présente donc finalement comme victime, et en réalité, qui est beaucoup plus complexe que ça, et qui finalement, sans dévoiler la fin, montre que la victime, elle n'est pas toujours parfaite. Et justement, quelle est la façon, vous en tant que journaliste justement, parce que vous le critiquez quand même un petit peu en creux dans le livre, la façon dont les médias et parfois même la justice ont la capacité justement à s'extraire de cette vision de la femme est forcément une victime, la mère est forcément plus ou moins innocente et victime, alors qu'en réalité il peut y avoir une complexité qui peut la rendre non seulement toxique mais meurtrière.
Je pense que dans tous les, il n'y a pas qu'en tant que journaliste, il y a en tant que tout, ne pas prendre les choses de façon frontale, en se disant, en se racontant des histoires, c'est en croyant ce qu'on a envie de croire. Quand on voit un cas parfait, un fait divers, on se dit, ah, c'est affreux, elle a fait ci, il a fait ça. Et tout de suite, on a une espèce de sorte de pensée affective et de décryptage affectif du phénomène. Moi, je pense que dans la vie, les choses sont infiniment plus compliquées. Je donne toujours le même exemple d'un tueur en série. On va faire un micro-trottoir chez les voisins. Il disait, il allait acheter son pain tous les jours. Ou alors, il y avait un char. Bon, super.
Il était sympathique.
Et je suis partie de cette histoire qu'on m'a racontée parce que les protagonistes n'avaient l'air de rien. C'est quand je dis n'avaient l'air de rien, c'est pas méprisant, ça veut pas dire
des anonymes, des quidam.
Oui, des gens comme vous et moi. Enfin, des gens qui ont l'air d'avoir rien qui dépasse. Ni très méchant, ni très gentil, ni très violent, ni très doux, ni très intelligent, ni très bête, ni très volontaire. Voilà. Et ces gens-là, momentanément, peuvent se transformer en une sorte de monstre. Avec quelque chose qui dépasse la moyenne. Qui dépasse la moyenne dans la dureté, dans la capacité à se venger, à anticiper des actions mauvaises. Donc, je trouve ça toujours absolument fascinant. Donc, quand on est journaliste, je pense, pour revenir et atterrir sur votre réponse, que dès qu'on vous montre quelque chose, il y avait un reportage l'autre jour à la télévision, c'est une famille qui dit, oh là là, on a du mal à finir le mois, et à un moment donné, ils disent, la taxe foncière, ouais. C'est dur avec la taxe foncière. Bon. Je me dis, le journaliste aurait dû demander, mais attendez, si vous payez une taxe foncière, c'est que vous êtes propriétaire. Si vous êtes propriétaire, c'est pas que vous avez un si faible niveau de vie. Parce qu'autrement, on ne paye pas de taxe foncière. Donc, je veux bien que les gens me disent, on est très malheureux, mais je voudrais qu'on montre leur feuille d'impôt et qu'on ne se limite pas à ce qu'on voit. Qu'on aille chercher derrière ce qui peut se produire.
Abel aussi, Fatima Hidbounoua.
Ce qui est intéressant, ce que j'ai beaucoup aimé dans le livre, moi, j'ai été torturé psychologiquement, très honnêtement. Mais ça m'a fait du bien, ça.
Ah, bon, bah alors, c'est parfait.
Parce que c'est un livre vraiment qui parle de la culpabilité, la manipulation et le rapport au doute aussi. Le doute qui peut être positif parce qu'il nous permet de rester dans l'humilité. Ici, le doute nous ravage en réalité. Mais moi, j'avais deux questions. Pourquoi avoir pris la thématique de l'infanticide qui est encore un tabou dans la société? Le rapport de la femme à l'infanticide aussi, et dans ce rapport où la vérité peut être un mensonge quand même basé sur la vérité, le mensonge peut être une vérité quand même basée sur le mensonge, d'où la torture psychologique. Pourquoi l'infanticide? Et deuxième question, est-ce que vous nous avez délivré un ouvrage pour nous permettre d'explorer votre univers littéraire ou pour nous permettre aussi de réfléchir sur nos contradictions humaines?
Alors, je vais commencer par la dernière. Je l'ai fait parce que j'ai trouvé l'histoire passionnante. C'est aussi plus bête que ça, plus terre à terre. J'aime bien raconter des histoires. Enfin, quand je fais de la politique, je raconte pas des histoires au sens de n'importe quoi. Mais j'aime bien le principe du. Quand j'étais allée chercher sur Clémenceau son histoire d'amour, j'aime bien raconter comme on fait aux enfants le soir. Donc je veux pas donner de leçons. Je suis pas en mesure. Et en plus, chacun tirera les leçons ou pas. Ça c'est le premier point. Première question, effectivement, je trouve que c'est assez de rentrer dans la psychologie des gens et de leur les faire douter. C'est à peu près la première chose qu'on doit faire. Douter de tout. Enfin, pas être blasé, mais quand on vous présente une vérité, se demander si on a été trompé, si on s'est trompé soi-même, si on a dit des choses. Donc je trouve que c'est un ressort passionnant.
Et vous, journaliste politique, c'est ce que vous avez toujours fait en tant que journaliste politique, douter de tout. Douter de tous les politiques, de ce qu'ils racontent.
Alors non, parce que quand j'étais jeune, je doutais moins. Mais en voyant à l'usage, je doute tout le temps. Non, mais j'aime pas qu'on me raconte qu'on me raconte des salades. J'aime pas qu'on me raconte une. La com me fatigue beaucoup maintenant.
Pourtant, c'est beaucoup de com aujourd'hui.
Oui, je sais bien. Mais j'essaie justement d'essayer de décrypter et de pas prendre tout ça, de pas avaler comme ça tout ce qu'on peut me raconter et de c'est. Et dans, à la fréquentation de tous ces braves gens, de voir la part de fake et la part de cinéma qu'on fait, qu'on nous fait.
Et finalement, c'est quoi la réponse?
Ah, elle est grande.
C'est quoi, c'est 90% de cinéma?
Bah, écoutez, vous savez, j'aime pas dire tout le temps, moi, dans le temps, mais nous, il n'y avait pas Twitter quand on a commencé. C'est-à-dire, il n'y avait pas les réseaux sociaux. C'est-à-dire que quand un homme politique disait quelque chose, il le disait à l'AFP ou à RTL, à RMC, peu importe. Et c'était vérifié par les journalistes. Maintenant, ils communiquent eux-mêmes. C'est ce qui a été formulé d'ailleurs et formalisé par Jean-Luc Mélenchon, qui est « c'est mon média, je dis ce que je veux et les gens le captent ». Sans qu'il y ait de filtre, de vérification, quoi que ce soit. Donc effectivement, puisqu'on maîtrise tout, on fait de la com plus que l'information.
Fatima,
vous commencez votre livre par une citation, alors qui est très belle d'ailleurs. « Mettre des souvenirs faux sur les vrais, jusqu'à ce que les vrais en crèvent. » Ma question, c'est quel vrai souvenir vous avez voulu faire crever ou faire mourir sous les masques fictifs de Maître Jean, Nadège et Richard? Qu'est-ce qui se cache derrière cette histoire-là?
Il se cache probablement d'une façon idéalisée qu'on a de revisiter son enfance ou de revoir ce qu'on a pu connaître ou les gens qu'on a pu rencontrer pour que ce soit supportable. Je faisais une émission dans le temps qui s'appelait « Quand j'étais petit » sur l'enfance des gens et ils me racontaient une enfance rêvée. Ils me racontaient que leur mère les aimait beaucoup, qu'il n'y avait pas de problème. On me racontait des belles histoires aussi. Et je me rendais compte souvent après l'émission que ça clochait. Il y en a un qui sortit en me disant « Mais ma mère, elle n'était pas comme ça, c'était folcoche. Elle était méchante. Je préférais mon frère. » Et j'essaie de voir dans l'idéalisation qu'on peut avoir chacun de notre parcours ou les gens qui se reconstruisent une biographie. Vous savez, à la fin de leur vie, ils racontent des trucs. C'est-à-dire qu'ils servaient le café dans une radio et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui lui a dit « Va faire le flash !» Et c'est comme ça qu'ils sont devenus des grands journalistes. J'aime bien casser tout ça. C'est toujours la même chose. Hein. J'essaie de casser les apparences et je me l'applique aussi à moi.
Mmh. Et justement, vous cassez un peu l'apparence du ténor, du barreau avec le personnage justement de l'avocat Jean-Yves.
Oui. Vas-y.
Parce qu'il est assez complexe. Il y a cette espèce de vanité de l'avocat d'assises, etc. Et justement, comment vous qui les avez fréquentés, ces ténors de barreaux d'assises, comment est-ce que finalement ils se nourrissent aussi des affaires qu'ils traitent, souvent médiatisées, et qui vont construire pas seulement leur fortune, mais aussi qui vont construire leur légende. Et est-ce que ces personnages sont pas parfois, ils ont pas un caractère vraiment de carnassier et de vampire des affaires qu'ils traitent et qui vont sur lesquelles finalement ils vont s'en servir comme marchepied. Alors, je fais exprès d'utiliser le terme marchepied car vous comprendrez l'allusion à laquelle je fais par rapport à Monsieur Dupond-Moretti qui avait parlé de se servir de Lola comme d'un marchepied. Donc lui, je pense qu'il s'est souvent servi des affaires comme d'un marchepied.
Alors, pour réponse sa propre de Nathalie.
Non, pas mon avocat à moi parce que mon avocat à moi, il n'est pas un avocat de niche. Les avocats de niche, c'est quelqu'un qui prennent toutes les femmes battues et qui se mettent en avant en faisant
tous les narcos,
ou qui font tous les narcos et qui en profitent pour en rajouter. Le mien, c'était un de la vieille époque, qui buvait, qui fumait, qui mangeait, qui aimait bien les femmes et qui s'est occupé de cette petite parce qu'elle lui rappelait une fille qu'il n'avait pas eue.
Un dernier mot, Nathalie Saint-Cricq, vous êtes l'épouse de Patrice Duhamel, la mère de Benjamin, la belle-sœur d'Alain. Comment se désintoxique des Duhamel qui sont vous allez partir en cure
c'est une famille royale.
De désintoxication.
Alors,
à un moment,
d'abord, moi je m'appelle pas Duhamel, enfin, je gardais mon nom. Et deuxièmement, c'est lourd. C'est très lourd, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je fasse
Mais vous pourriez écrire une autobiographie.
Ah, mais c'est justement,
où on irait dans ces secrets-là sans
on
le
s'en fout. Alors, excusez-moi, moi je suis persuadé qu'on s'en fout totalement. Hein.
Ouais.
Ah non, mais ça va, moi je...
Mais que répondez-vous à ceux qui critiquent les Duhamel en disant ils sont partout...
Je critique, je dis... Alors,
c'est revenu plein pot ces derniers temps.
Benjamin,
les népo bébés.
Attendez.
Je suis d'accord. Je peux comprendre les gens. Je leur explique ce que je dis toujours, même si c'est inefficace, qu'ils ont fait des études, qu'ils ont passé des entretiens d'embauche, et que c'est pas moi qui ai casé mon fils à BFM quand il y était, parce qu'on est allé chercher sur LCI. Je réponds que si les gens, si on est d'une famille, c'est de l'endogamie, d'accord. Mais d'un autre côté, les gens qu'on fréquente, on fréquente plutôt des journalistes, donc qu'on rencontre des journalistes, on peut se marier avec des journalistes, ça peut arriver.
Oui, comme des médecins.
Et je raconterai que je ne dirai jamais à Jean-Luc Mélenchon que son gendre est député à l'Assemblée nationale dans une circo qui lui a été attribuée parce qu'elle était bonne, que Madame Chikirou est également députée et que sa fille a travaillé avec lui et que son ancien garde du corps, Monsieur Delogu, a eu sa circonscription dans les Bouches-du-Rhône. Donc je ne les accuse pas de travailler en famille.
Merci Nathalie Saint-Cricq.